Le Soudan est dirigé depuis juin 1989 par un régime militaro-islamiste, c'est-à-dire que c'est un coup d'État militaire qui a porté ce régime au pouvoir. Donc il y a l'armée putschiste avec le chef de l'État, le général Omar al-Béchir, et puis les islamistes, c'est-à-dire un certain nombre d'idéologues, pour l'essentiel des diplômés d'universités occidentales, qui définissent la stratégie à la fois interne et internationale du Soudan.
Alors quelles sont ces milices tribales qui opèrent actuellement au Darfour ?
Alors ces milices janjaouides, effectivement, ont fait florès, puisque c'est elles qui sont mises en avant comme responsables de ce qu'on appelle la crise humanitaire qui secoue le Darfour actuellement. En réalité, il s'agit de jeunes, des tribus nomades du nord du Darfour, qui ont été armés et payés par le gouvernement central pour pratiquer une politique de la terre brûlée à l'encontre des populations sédentaire.
Quelle est l'origine de ce conflit ? Les motifs sont religieux, ethniques ?
Alors, ça n'est pas un conflit religieux, puisque aussi bien les agresseurs que les victimes sont des musulmans. Ce n'est pas non plus, à mon sens, un conflit racial, comme on le présente souvent, c'est-à-dire un conflit de nomades et de sédentaires, puisque, pour moi, dans toute la bande sahélienne de l'Afrique, les nomades et les sédentaires ont traditionnellement des relations de complémentarité, d'échange. Cette dévastation actuelle du Darfour est une opération planifiée, organisée par le gouvernement soudanais qui a lancé son armée à l'assaut de cette population civile, quitte à passer la main à ses milices tribales dans la mesure où l'armée ne peut pas tout faire, où le Darfour est une région grande comme la France. Il est plus économique et plus efficace de faire appel à des milices tribales.
Mais alors comment peut-on expliquer ce conflit ? Quelles sont les motivations de Khartoum ?
À l'heure où le gouvernement soudanais signe la paix ou est en passe de signer une paix avec la rébellion du Sud-Soudan, l'idée est de dire aux autres peuples périphériques du Soudan, n'en profitez pas, ne croyez pas que c'est parce que nous avons signé cette paix qui implique un partage du pouvoir et un partage des richesses avec la rébellion du Sud, que nous allons partager avec tout le monde. Hein. L'idée, c'est de cantonner cet accord de paix au règlement de la question du Sud, avec l'aval des Américains, de la communauté internationale, sans pour autant que ce régime, qui est tout à fait illégitime, ne soit mis en danger, puisque ni les Américains ni le reste de la communauté internationale n'ont exigé de démocratisation du régime de Khartoum, qui s'en sort en jetant quelques miettes, je dirais, à la rébellion sudiste en échange de l'exploitation des richesses pétrolières du pays, de la mise en exploitation aussi des richesses agricoles du Sud. C'est aussi, je pense, cette politique de la terre brûlée, une préparation à la mise en exploitation intensive de type colonial des richesses agricoles de cette région. Il faut savoir que le Soudan est donc le grenier du monde arabe et que cette vocation a pu être mise en œuvre à travers de grandes fermes mécanisées dans toute la zone sahélienne. Et c'est un des enjeux de la guerre au Sud-Soudan aussi, et sans doute au Darfour, l'idée que des grandes compagnies islamiques, des compagnies comme celle d'ailleurs que dirigeait Ben Laden quand il était au Soudan de 1991 à 1996, donc c'est une région qui pourrait permettre des productions de type café, tabac, thé, vigne, enfin des productions dont le Soudan manque et qui ont une grande valeur.